Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Lecaplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec vous, Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne.
Bonne nuit.
Pour les enjeux de la COP28, qui va se tenir à Dubaï le mois prochain. Pour la rédaction en persan, Nasser et Temadi.
Bonsoir.
Pour tenter de répondre à cette question. L'Iran est-elle derrière l'attaque du Hamas sur Israël? Et Sori Ibrahim, de la rédaction en monde en camp.
Au bel adjelaninantouan.
C'est votre première participation, Sori, à Accent du Monde. Bienvenue. Vous êtes en ligne de Dakar. C'est là que se trouve la rédaction au Monde en Camp. Dites-nous, quelle est votre zone d'écoute?
Alors, nous sommes avec nos collègues de la rédaction Full Day de RFI. Et nous sommes tous deux basés ici à Dakar. Alors, nous couvrons pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Burkina, du Niger et les Fulfulde. On peut aller jusqu'au Tchad, au Cameroun. Donc, nous avons une couverture assez large quand même dans la sous-région.
Et combien de personnes au total peuvent vous écouter?
Alors, l'estimation exacte, je ne l'ai pas en tête, mais c'est vraiment des milliers de personnes qui nous écoutent chaque jour à travers l'Afrique et même à travers le monde via nos plateformes digitales.
Enfin, milliers, je pense que vous êtes modeste, c'est, je pense, millions hein, que vous pouvez dire. En tout cas, on est ravis de vous accueillir dans Accent du Monde, qui s'élargit donc à l'ensemble des richesses et de toute sa diversité de cette station. Alors que la guerre continue de faire rage à Gaza, ce qui suscite toujours autant de réactions dans le monde, notamment d'appels à la paix, Accent du Monde vous propose ce soir un éclairage sur la position des pays dits du Sud. Mardi prochain marquera le premier mois du conflit. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque majeure contre Israël, entraînant donc un nombre sans précédent de victimes civiles, d'abord côté israélien, puis du côté palestinien. Les victimes qui se comptent maintenant par milliers. Alors Sori Ibrahim, justement, cette escalade a suscité diverses réactions dans le monde, y compris en Afrique, mais les États africains s'expriment peu ou alors avec beaucoup de précautions.
Le premier constat est que les réactions sont beaucoup timides et l'Afrique ne parle pas d'une même voix. Il y a des pays qui condamnent sans équivoque l'attaque du Hamas et soutiennent Israël. Là, on peut les nommer, il y a le Cameroun, le Ghana, la RDC ou encore le Kenya. Ces pays ont tous fortement condamné les attaques ciblant des civils et apporté leur soutien à Israël. Ceux qui refusent de condamner le Hamas et soutiennent le peuple palestinien, l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique du Sud.
Et il y a aussi ces États africains qui ont choisi une troisième voie.
Effectivement, il y a ces États qui ont choisi une troisième voie, préférant appeler à la désescalade et au cessez-le-feu sans condamner explicitement l'attaque du Hamas. Disons que ces États, ces pays cherchent un point d'équilibre et appellent à la désescalade. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. On retrouve le Sénégal, le Maroc, le Mali, le Nigeria, l'Égypte, ainsi de suite. C'est un peu aussi la position de l'Union africaine. Dans un communiqué publié sur son compte X, le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa vive préoccupation et a appelé les deux parties à revenir sans condition préalable à la table des négociations pour mettre en œuvre les principes des deux États qui vivent côte à côte.
Et comment analyser ces différentes positions des pays africains, Sori?
De façon plus globale, selon l'éditorialiste et chercheur malien Alexis Clambry, le premier aspect est que plusieurs pays trouvent qu'il y a une injustice faite à l'Afrique elle-même, qui a beaucoup de problèmes, notamment sécuritaires, mais qui ne trouve pas plus d'écho ou d'attention qu'il y a autour d'Israël ou du conflit palestinien. Deuxième chose, c'est qu'ils sont nombreux ces pays en Afrique qui ont plus de sympathie pour la Palestine, mais qui ne peuvent pas l'exprimer par père d'Israël ou des États-Unis ou même des pays occidentaux en général qui soutiennent l'État hébreu. Cette sympathie s'exprime principalement par les peuples, mais pas par les dirigeants. Selon un autre chercheur africain, l'autre aspect qu'on peut citer ici, c'est l'aspect religieux. Et ça, en Afrique, on s'en méfie beaucoup, car c'est un peu comme le sionisme contre l'islam. C'est comme une guerre de civilisation, une guerre religieuse sous-jacente qui sont déjà des questions sensibles en Afrique. Donc, pour toutes ces raisons, on s'en méfie beaucoup de prendre position.
Et vous le disiez il y a de cela quelques instants, il y a des pays qui soutiennent fermement Israël. Comment est-ce que cela s'explique ?
Comme cité un peu plus haut, Philippe, ces pays ont des relations historiques avec Israël. Ce sont des pays qui sont fortement soutenus par Israël ou par les États-Unis. Certains bénéficient même de la sécurité de la part d'Israël sur leur territoire. Donc, ces pays ont une coopération prononcée avec Israël. Philippe, dernière chose qu'il faut un peu développer ici, c'est la position de l'Afrique du Sud. Car historique, l'Afrique du Sud, c'est 50 ans de lutte contre l'apartheid et est très sensible à ces questions d'oppression. En Afrique du Sud, on pense que la Palestine est un peuple en lutte pour son indépendance, comme la nation arc-en-ciel l'a été par le passé.
Sori Ibrahim en ligne de Dakar. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes. Avant cela, Nasser Etemadi, vous avez lu une tribune publiée par Ali Rabi dans le journal réformateur Etemad à Téhéran. Il y écrit que la population iranienne refuse de défendre la partie palestinienne contre Israël. Alors rappelons-le, Ali Rabi, c'est l'ancien ministre du Travail, puis le porte-parole du gouvernement de l'ancien président Hassan Rouhani.
Effectivement, il accuse même les Iraniens de refuser de voir et de défendre la vérité, c'est-à-dire, d'après lui, la cause palestinienne, en raison des jugements négatifs qu'ils ont accumulés contre le gouvernement iranien et sa politique régionale. L'ancien ministre iranien reconnaît que les Iraniens voient dans cette politique la cause majeure de leur malheur. C'est pourquoi Ali Rabi a qualifié cette réaction, cette indifférence de la société civile iranienne envers la question palestinienne d'une contestation nationale et coordonnée contre l'état actuel des choses en Iran avant tout.
Et pour lui, finalement, cette indifférence est en soi une prise de position.
C'est une prise de position, Ali Rabi confirme cela, il confirme également que cette indifférence de la société iranienne est l'expression même d'une sorte de solidarité avec Israël dans le conflit qui l'oppose aujourd'hui contre le Hamas et que cette solidarité s'étend étonnamment au milieu académique, notamment parmi les professeurs d'université bougés à nouveau par une vague de licenciements massifs et restés par conséquent démunis et sans avenir, oh comme leurs familles face aux aléas et pressions de la vie quotidienne extrêmement dure en République islamique d'Iran aujourd'hui.
Et Ali Rabi également pointe les causes sociales, économiques et politiques de cette indifférence des Iraniens envers la question palestinienne.
Ces allusions sont à la fois un paradoxe et un aveu d'échec de la part d'un système qui, on le sait, a fait de la destruction d'Israël, via notamment ses soutiens financiers et militaires massifs et permanents aux groupes tels que Hamas et Hezbollah libanais, le fondement même de sa politique étrangère. Ali Rabi reconnaît à demi-mot que les Iraniens constatent, ont pris de conscience que leurs malheurs sont finalement la conséquence directe des milliards de dollars consacrés depuis plus de 40 ans par le gouvernement iranien aux groupes paramilitaires fondamentalistes dans la région, à la fois par rivalité avec l'Arabie saoudite sunnite et pour détruire l'État d'Israël. L'attaque du 7 octobre, donc du Hamas, qui a coûté la vie à plus de 1400 Israéliens et l'état de désolation dans lequel se trouvent aujourd'hui les Gazaouis sont les dernières péripéties de cette politique irresponsable qui risque fort de se retourner contre son auteur, c'est-à-dire le régime iranien.
Lucien Mouzel, depuis le début de cette crise au Proche-Orient, le Brésil présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. Brasilia n'a pour autant pas réussi à convaincre les 15 pays du Conseil à adopter une résolution à propos de cette guerre à Gaza.
Exactement. Après 7 réunions, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu à approuver un texte sur le conflit entre Israël et le Hamas, notamment l'accès à l'aide humanitaire, à la bande de Gaza, l'évacuation des civils. Les dernières discussions ont eu lieu à la veille de la fin du mandat du Brésil à la présidence de l'organisme. La réunion d'urgence demandée par les Émirats arabes unis et la Chine faisait suite à l'approbation d'une résolution non contraignante de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient. Mais comme vous le savez, le Conseil de sécurité est le seul organe de l'ONU ayant le pouvoir d'adopter des décisions contraignantes. Malgré les efforts déployés par les ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, les divergences entre les 15 pays membres du Conseil restent très importantes.
Et le président Lula s'est lui-même impliqué, investi, alors que son pays a présidé donc le Conseil de sécurité. Au bout du compte, est-ce que c'est perçu comme un échec diplomatique du Brésil ?
C'est difficile de parler d'échec quand l'enjeu est tellement grave comme celui-ci. C'est clair que c'était une opportunité absolument inattendue de se faire remarquer diplomatiquement. Le Brésil a assumé cette présidence tournante le 1er octobre, quand personne ne se doutait de ce que se passerait une semaine après, c'est-à-dire l'invasion par les militants du Hamas à Israël et la tuerie qui s'est suivie. L'explosion de ce conflit a pris tout le monde au dépourvu et vous pouvez imaginer à quel point c'était à la fois complexe, mais aussi stimulant du point de vue diplomatique pour le Brésil de pouvoir jouer un rôle dans ce contexte. Le président Lula, donc convalescent après une chirurgie assez importante qu'il a fait en septembre, il a appelé les présidents israéliens, égyptiens, iraniens, russes, français, l'émir du Qatar, les diplomaties des États-Unis, des pays arabes, de la Chine, mais tout ça en vain, car à chaque fois, un des 5 membres permanents du Conseil a utilisé son droit de veto au texte soumis au vote pour les États-Unis, par exemple, un texte qui ne mentionnerait pas le droit d'Israël de se défendre, ne pourrait jamais passer. Désormais, depuis le 1er novembre, c'est la Chine qui exerce la présidence du Conseil. Pas sûr que les choses avanceront davantage.
En tant que tel, maintenant, le Brésil essaie de rester le plus neutre possible dans ce conflit. Ce n'est pas tout à fait le cas de ses voisins latino-américains. Pour quelles raisons ?
Le Brésil, il entend qu'il veut bien jouer ce rôle dans la scène internationale, notamment en tant qu'un des leaders du Sud global. Et s'il veut jouer ce rôle, il ne pourra pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Dans ce conflit, la Bolivie, par exemple, a annoncé la rupture de ses relations avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Le Chili et la Colombie ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël, une mesure diplomatique qui signifie leur désapprobation aux actions de Tel Aviv. Notre correspondante à Brasilia, Raquel Miura, a interviewé le professeur de relations internationales Arthur Murta. Il explique que, historiquement, il est extrêmement rare que la diplomatie brésilienne prenne des mesures fortes contre notre pays, comme rappelait son ambassadeur. On l'écoute.
O Brasil ele já fez esse mecanismo de convocar o embaixador para consultas em outros casos semelhantes. Quando houve um golpe de Estado no Paraguai em 2012, por exemplo, o Brasil convocou. É algo que o Brasil sim, já fez.
Quel est l'analyse de cet expert en relations internationales?
Il nous dit que cette décision a eu lieu, par exemple, il y a plus de 10 ans à l'encontre du Paraguay lors d'un coup d'État dans ce pays voisin, mais il ne voit pas Brasilia le faire maintenant avec Israël, car le Brésil essaye toujours de jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Aussi, il nous rappelle que la société brésilienne est très polarisée par rapport à cette guerre. La droite et notamment le public évangélique se mettent à côté des Israéliens et la gauche en bloc derrière les Palestiniens. Donc politiquement, il est aussi risqué du point de vue interne pour Lula de pencher vers un côté ou l'autre.
Voilà pour les analyses et les commentaires. Pour ce qui est des faits, sachez ce soir que Emmanuel Macron annonce la tenue d'une conférence humanitaire. Ce sera le 9 novembre à Paris. Le président français affirme que la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils, alors que des opérations terrestres, les frappes se poursuivent à Gaza. En déplacement en Bretagne, le chef de l'État a expliqué que cette conférence humanitaire se déroulera dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Nous appelons, dit-il, à cette trêve humanitaire parce que la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. Pour ce qui est du chef de la diplomatie américaine, il est en Israël. Il a plaidé pour des pauses humanitaires. Il appelle à faire plus pour protéger la population de Gaza, où l'armée israélienne poursuit ses opérations terrestres et ses frappes meurtrières. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 sauf Paris,
on dit thermomètre
Stadar.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et continuons de nous intéresser à ce conflit entre Israël et le Hamas avec cette question récurrente. L'Iran tire-t-elle les ficelles ? Nasser et Temadi de la rédaction Persane, votre analyse.
En fait, de l'aveu public des experts les plus renommés, aussi bien en France qu'à l'étranger, et les dirigeants politiques des grandes puissances à travers le monde, le conflit actuel entre Israël et le Hamas est en fin de compte l'œuvre du gouvernement islamique en Iran. Ce conflit, dit-on, malgré les démentis répétés des dirigeants iraniens, n'aurait pas eu lieu si Téhéran n'avait pas soutenu durant des années militairement et financièrement le Hamas et le djihad islamique et participé à la préparation de l'attaque surprise du 7 octobre dernier contre Israël. Dans l'immédiat, le gouvernement iranien a réussi à gagner par ce conflit une bataille médiatique très importante contre Israël, en portant un coup sévère à l'image de l'invincibilité militaire et sécuritaire d'Israël, à faire suspendre le processus de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite, à se présenter encore aux dépens de Riyad comme le héros de la cause palestinienne auprès des populations arabes et musulmanes à travers le monde, et enfin à mettre en sourdine les crises et les luttes politiques et sociales qui rongent de l'intérieur le gouvernement iranien à travers notamment le mouvement Femme, Vie, Liberté depuis le septembre de l'année dernière.
Alors si ces résultats immédiats semblent être clairs, hein, vous l'avez très bien dit, leurs conséquences restent incertaines pour autant.
Effectivement, le gouvernement iranien veut se contenter de ce résultat sans prendre le risque d'aller au-delà, c'est-à-dire vers un affrontement direct contre Israël, où il sera sans aucun doute le grand perdant. Le discours vide et décousu, pourtant tant attendu de Hassan Nasrallah, aujourd'hui en dit assez à ce sujet. Mais le fait est que les dés sont jetés et que ce n'est plus désormais le gouvernement iranien, encore moins le Hezbollah libanais, qui maîtriserait à eux seuls le cours des événements. Par son soutien public à l'action de Hamas, le 7 octobre dernier, l'Iran a peut-être ouvert une boîte de Pandore avec à l'arrivée des résultats incalculables et imprévisible. C'est que cette attaque a lancé avant tout contre Israël un défi existentiel condamnant celui-ci, Israël, à en sortir plus fort qu'avant s'il ne veut pas perdre le il ne veut pas prendre le risque de perdre la crédibilité de sa puissance de dissuasion dans la région.
C'est donc pour cela qu'Israël Nasser se montre déterminé à éradiquer le Hamas aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie.
Oui, mais cette élimination ne pourrait être que le début d'un long processus difficile marqué par des conflits à l'échelle de la région. Une fois débarrassé de Hamas, Israël ne peut plus tolérer au nord le Hezbollah libanais et vivre en permanence sous la menace de ses 150 000 missiles iraniens braqués sur son sol. Idem en ce qui concerne la présence des gardiens de la révolution en Syrie et leur groupe paramilitaire composé essentiellement de combattants libanais, syriens, irakiens, afghans, pakistanais et autres. C'est en quelque sorte le sort de Bachar Assad, qui serait en jeu aussi une bonne fois pour toutes. Ou bien celui-ci acceptera de mettre hors de la Syrie les gardiens de la révolution et ses extensions étrangères, ou bien il risquerait fort d'être renversé d'une manière ou d'une autre.
Et qu'en est-il de la République islamique d'Iran alors ?
C'est très probablement par ce billet qu'Israël chercherait à infliger un revers majeur au gouvernement iranien, c'est-à-dire par l'élimination, sinon l'affaiblissement significatif, des groupes paramilitaires inféodés à Téhéran, lesquels sont au fondement de sa politique déstabilisatrice dans la région et au-delà. Aujourd'hui, même en Europe, à travers la présence iranienne dans la guerre d'Ukraine. Leur démantèlement à ce groupe serait en même temps un échec majeur des gardiens de la révolution. Le sol est l'unique pilier de la théocratie iranienne et de sa politique expansionniste.
Encore une question, dans la mesure où cet objectif est partagé par la quasi-totalité des États arabes sunnites de la région, Israël pourrait-elle bénéficier du soutien d'une coalition, du moins tacite, des mêmes États ?
Cette coalition tacite pourrait englober même les puissances occidentales et européennes qui, dans un élan sans précédent, ont exprimé, et ça ne peut plus qu'être démon, leur solidarité avec Israël et reconnu son droit à l'autodéfense, contrairement à la position officielle de la Russie. L'objectif serait donc de mettre le régime iranien seul face à lui-même, c'est-à-dire face à ses crises et problèmes internes et surtout sa population extrêmement mécontente et subversive qui est aujourd'hui consciente d'avoir payé en dépit d'elle-même un lourd tribut depuis plus de 40 ans à cause en grande partie de la politique régionale du régime islamique, politique dont les conséquences ont été la pauvreté et la privation accrue d'un pays exsangue.
Nasser Etemadi de la rédaction persane de Radio France Internationale. Intéressons-nous maintenant à la situation au Mali. Alors que la mission de maintien de la paix des casques bleus a reçu l'ordre de plier bagages, et ces dernières semaines, la MINUSMA a été contrainte d'accélérer son retrait. Tellement vite, concernant Kidal, que l'armée malienne qualifie ce retrait de précipité et mettant en péril son processus d'installation dans les anciens camps de cette mission onusienne. On vous retrouve en ligne de Dakar, Sori Ibrahim, chef de la rédaction de RFI Mandankan. Vous couvrez l'actualité de cette région. Alors, la MINUSMA se retire et le conflit prend ainsi une autre dimension.
Le conflit prend une autre dimension car l'armée malienne fait face aujourd'hui d'un côté aux terroristes et de l'autre côté aux rebelles ou mouvements signataires de l'accord pour la paix avec Bamako. Là, ce qu'il faut comprendre, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, après 10 ans de présence avec ses 12 000 et quelques hommes en uniforme et ses 4 000 et plus employés civils, était un acteur clé pour le retour de la paix dans ces pays en crise depuis 2012. La MINUSMA a contribué au respect par les parties signataires du cessez-le-feu et des arrangements sécuritaires, tout en soutenant également la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation de 2015, issu du processus d'Alger, dont elle était garante. Avec donc ce processus de retrait, la mission onusienne, l'objectif des forces armées maliennes est clair, c'est d'occuper toutes les entreprises laissées par la MINUSMA.
Du reste, certains mouvements signataires de l'accord pour la paix n'entendent pas les choses de la même manière.
Oui, notamment la CEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, qui fait elle-même partie d'une coalition dénommée Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP-PSD. La première phase du retrait de la MINUSMA qui a débuté le 17 juillet dernier est cette concentré sur la fermeture des bases avancées à Tombouctou, à Gao et Mopti. Il s'agissait de la fermeture de la base temporaire d'Ogosagou, de Ber et celle de Goundam le 25 août. Cette phase a été achevée avec la fermeture de la base de Menaka. Mais c'est à partir de Ber que la situation a commencé véritablement à se dégrader entre la CEMA et les autorités de Bamako. C'est à cause de la rétrocession des emprises de la MINUSMA à l'armée malienne.
Alors sur ces rétrocessions justement, il y a quelques jours, vous avez interviewé la porte-parole de la MINUSMA. On écoute Fatoumata Kaba. Sori Ibrahim, que vous a dit donc la porte-parole de la MINUSMA ? Sori ? Ah, je crois qu'on a perdu Sori Ibrahim de la rédaction en Mandankan. Vous nous écoutez ?
Fatoumata, oui, Philippe, Fatoumata Kaba explique ici que conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les bases de la MINUSMA sont rétrocédées à l'armée malienne. Mais cette situation est jugée inacceptable par les CSP-PSD qui dénoncent une violation des arrangements sécuritaires de l'accord. La progression de l'armée malienne dans le nord a donc donné lieu à plusieurs accrochages entre les militaires et les groupes armés signataires de l'accord entre août et septembre. Dans le même temps, les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou État islamique au Sahel, également présents dans la zone, ont multiplié les attaques visant l'armée malienne et la mission de l'ONU n'est pas épargnée non plus.
Alors on voit le conflit s'enlise et ce sont aussi les civils qui en paient le prix avec des déplacements massifs de gens qui fuient plusieurs localités du nord. Par ailleurs, cette semaine, dans un rapport, Human Rights Watch accuse l'armée malienne et des groupes islamistes d'avoir tué et commis des exactions contre de nombreux civils dans le centre et dans le nord du pays, et cela depuis le mois d'avril.
L'Organisation de défense des droits humains souligne en effet que depuis le début du mois d'avril, des combattants islamistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ISIM liés à Al-Qaïda ont tué plus de 160 civils, au moins 24 enfants. Les forces armées maliennes ont tué jusqu'à 40 civils, dont au moins 16 enfants, au cours d'opérations contre les insurrections. Selon l'ONG, les ISIM et le groupe État islamique au Sahel ont commis de nombreux nombreux abus graves dans plusieurs régions du Mali, notamment des meurtres, des viols, des pillages à grande échelle des villages. Ces abus surviennent alors que la mission de maintien de la paix de l'ONU s'apprête à quitter les pays d'ici le 31 décembre. Human Rights Watch nous rappelle le 7 septembre, justement, des combattants islamistes affiliés à Al-Qaïda ont attaqué un bateau de passagers sur le fleuve Niger, près du village d'Abakouira, dans la région de Tombouctou. Selon l'ONG, les assaillants ont tiré au moins 3 roquettes sur le bateau, tuant 49 personnes. De nombreuses victimes se sont noyées ou mortes brûlées vives alors que les bateaux prenaient feu.
Sori Ibrahim, de la rédaction en Mandankan de RFI. Dans moins d'un mois aura lieu la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette COP28 se tiendra à Dubaï. Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne. Bien qu'elle se déroule dans l'un des pays les plus dépendants du pétrole au monde, cette conférence sera la plus importante depuis celle de Paris, c'était en 2015. Pour quelles raisons ?
La COP28 devra présenter le premier bilan mondial des mesures prises jusqu'ici par les pays pour lutter contre le réchauffement climatique et montrer précisément ce que l'on doit faire pour que l'accord de Paris sur le climat soit effectif. Ce document, plus connu sur l'acronyme GST, issu de l'anglais Global Stocktake, montrera ce que le monde a fait ou pas pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré, le principal objectif du traité qui a été signé il y a 8 ans. Les participants réunis à Dubaï doivent donc décider s'ils veulent atteindre ces buts, sachant qu'il faudra dans ce cas mettre en place une mobilisation de ressources et des efforts sans précédent au cours des 5 ou 6 prochaines années. Et c'est là que les négociations deviennent très compliquées.
Alors, les pays du Sud sont très engagés auprès d'un nouveau groupe de travail mis en place cette année sur ce qui est appelé la transition juste. De quoi s'agit-il ?
La création de ce groupe a été décidée lors de la dernière COP en Égypte. Il a vocation à faciliter le dialogue pour les besoins des développements des pays, des communautés, des groupes les plus touchés par la crise climatique pour que ces besoins soient mieux pris en compte dans cette transition vers une économie à bas carbone vers laquelle tous les pays doivent être tournés. Je vous invite à écouter le chef de la délégation brésilienne sur ce dossier. C'est le diplomate Daniel Machado da Fonseca.
As grandes economias conseguem, ao longo da história, conseguiram acumular muito mais capital humano, muito mais conhecimento, muito mais tecnologia e conseguiram fazer a transição.
Il explique que les grandes économies ont pu, tout au long de l'histoire, accumuler beaucoup plus de capital humain, de connaissances, de technologies et ainsi ils ont réussi à opérer cette transition plus facilement aujourd'hui. Grâce à cela, les pays riches génèrent naturellement moins d'émissions de CO2 tout en continuant de créer de la richesse. Donc si nous voulons, que la transition soit juste pour tous, ces inégalités structurelles, comme il dit, doivent être affrontées.
Le Brésil est particulièrement actif dans ces négociations climatiques, pour plusieurs raisons, notamment parce que dans 2 ans, la COP30 aura lieu en Amazonie.
Exactement. On ne sait toujours pas où sera la prochaine COP en 2024, mais celle de 2025 se passera à Belém, tout au nord du Brésil. Des nouveaux engagements de la part de tous les pays devraient être formalisés à ce moment-là. Donc ce sera en effet une conférence extrêmement importante. Avant, donc, dès cette COP28 à Dubaï, le Brésil entend bien se faire remarquer pendant les négociations, une espèce de préparation à sa présidence de la COP30. Mais le contexte mondial n'y est pas très favorable. On avait déjà la guerre en Ukraine, maintenant celle au Moyen-Orient. J'en ai discuté avec Marianne Eto, la directrice exécutive de l'Institut Climat et Société au Brésil. Cela fait plus de 30 ans qu'elle suit ces négociations climatiques.
Non va ser uma COP facile nesse sentido.
Elle dit que la conférence de Dubaï ne sera pas une conférence facile car ces conflits montrent bien à quel point le multilatéralisme est en crise et les guerres soulèvent de nouveaux défis, de nouveaux vieux débats comme la fin des combustibles fossiles et notamment celui du pétrole.
Et cela alors que la présidence de la COP cette année est occupée par les Émirats Arabes Unis, 7e producteur mondial de pétrole. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.